Vous êtes avec SBS French.
Eh bien aujourd'hui, dans le programme en français sur Radio SBS, on va parler d'alcool et de distillation avec Bernard Beau. Vous nous venez d'Alsace.
Voilà, bonjour. Je viens d'Alsace, tout droit depuis ce fabuleux pays français.
Alors, parlez-nous un petit peu de la distillerie en Alsace et puisque ce que vous êtes venu faire ici en Australie.
Alors, la distillation en Alsace, c'est quelque chose qui est très ancien puisque ça remonte au XVIe siècle. Et je suis venu pour célébrer l'histoire d'une maison, d'une distillerie, la distillerie Massenet, qui fête ses 150 ans cette année. Et nous allons fêter cette histoire à travers le monde et on commence par l'Australie.
D'accord. Les alcools d'Alsace, il y a quoi de traditionnel en fait? Parce qu'on est, l'Australie, on est un petit peu loin de tout ça. C'est vrai qu'on pense à certains vins peut-être, mais au niveau des alcools, il y a quoi en Alsace qui...
Alors, on va parler d'eau de vie, qui est le terme... qui est le terme consacré.
D'accord.
Et en Alsace, on est célèbre pour deux eaux de vie particulièrement. L'eau de vie de cerise, le kirsch d'Alsace.
D'accord.
Et également le marc de Gewürztraminer, puisque vous faisiez allusion au vin. Ensuite, il y a eu un développement de cinq eaux de vie majeures, qui sont la prune, la quetsch, la mirabelle, qui viennent accompagner donc la poire William pour clore un peu les eaux de vie classiques alsaciennes.
D'accord. C'est reçu comment à travers le monde, ça? Parce qu'il y a cette image, en France, on connaît, c'est fait, c'est connu, ça fait 150 ans, vous l'avez dit.
Oui.
C'est fait, le job est fait en fait. À travers le monde, il y a une compétition extraordinaire par rapport aux eaux de vie et aux alcools. Et puis il y a des modes, je pense, qui doivent changer,
c'est
fluctuer.
Ça,
on s'adapte comment quand on a une maison qui a 150 ans justement?
Alors en fait aujourd'hui, c'est un peu plus facile de pouvoir se projeter au niveau mondial parce qu'on a une nouvelle génération de mixologistes qui est dans une démarche de redécouvrir un petit peu les origines des spiritueux.
D'accord.
Et les eaux de vie de fruits ont été les premiers spiritueux élaborés historiquement. Donc on se retrouve avec cette nouvelle génération qui a soif un petit peu de revenir aux racines. Et c'est une chance pour nous parce que c'est exactement ce que vous soulignez. On est toujours sur des phases cycliques. Et par contre, quand votre tour arrive, il vaut mieux être prêt.
Il vaut mieux être là, oui.
Il vaut mieux être là. Donc c'est ce qu'on essaye de faire.
Oui, parce qu'on l'a vu avec d'alcool, je ne sais pas, du type cognac, qu'il suffit qu'il y ait un rappeur au fin fond de New York ou de Los Angeles qui mette une photo avec une marque et puis boum.
Ouais.
On ne s'y attend pas, mais presque des fois.
Ah oui, non, mais c'est clairement
c'est la folie.
C'est ça. Alors, on espère qu'il y a un rappeur australien qui va s'emparer de notre Kirsch Massenet et qui va nous propulser en haut des charts.
Le Kirsch, c'est quoi exactement?
Alors, le Kirsch, c'est une eau de vie de cerise. Ces eaux de vie de fruits sont obtenues par, d'abord, on récolte les fruits, cerises, prunes, mirabelles, poire William, et on va les faire fermenter. La fermentation, c'est tout simple, c'est les levures qui sont sur la peau des fruits qui vont transformer le sucre en alcool. Une fois la fermentation terminée, on a un vin de fruits, comme on pourrait avoir un vin de raisin, et ce vin de fruits, on ne va pas le laisser en l'état, mais on va le distiller. Cette distillation, c'est la séparation en fait, de l'alcool avec le moût de fruits. On va obtenir l'eau de vie de fruits. Donc c'est quelque chose de très simple à comprendre, on peut le faire à la maison à la limite, c'est pour ça que...
On a le droit.
Alors après ça dépend des pays.
Dans certaines limites.
Voilà. Et c'est pour ça aussi que tant de distillateurs faisaient leur propre eau de vie en Alsace comme dans le nord-est de la France, comme en Allemagne. On appelait ça des bouilleurs de cru, parce que techniquement c'était pas très compliqué, il suffisait d'avoir une marmite qu'on appelle un alambi pour pouvoir chauffer les fruits fermentés, un réfrigérant pour... une fois qu'on a les vapeurs, les transformer en liquide, et puis ensuite on obtenait l'eau de vie de fruits. Donc c'était un process qui n'était pas si complexe d'un point de vue physique. Après, ça s'appelle eau de vie, c'est ce qui est fantastique, parce que si on réussit bien notre travail, on récupère les arômes primaires du fruit, et ces arômes-là, c'est un fruit sans arôme, il est mort.
D'accord.
Et l'arôme, c'est vraiment la marque de la vitalité du fruit, et tout le travail du distillateur, c'est d'aller reprendre cet arôme et le garder pour l'éternité.
Ça se consomme comment? Pour ceux qui ne connaissent pas, ça se consomme quand? Ça se consomme à quelle partie du repas? Ça se consomme comment en fait?
Alors aujourd'hui on assiste à une petite révolution parce que très traditionnellement l'eau de vie de fruits était consommée en Alsace, surtout on aimait faire des bons repas, à la fin du repas. à la
le
fin
fameux
du repas,
digestif.
Le fameux digestif. Alors, ce n'était pas qu'un nom. C'est clair que les eaux de vie étant à peu près 40 degrés d'alcool, elles permettent une meilleure digestion. Donc, ce n'était pas seulement un nom, c'était vraiment, ça correspondait à une propriété physique de l'eau de vie. On consommait aussi beaucoup l'eau de vie dans ce qu'on appelait le trou alsacien, avec du marc de Gewürztraminer.
J'allais dire le trou normand, mais non, en fait, absolument pas.
Un trou normand, c'était le Calvados, c'est une autre eau de vie. Et puis, maintenant, la révolution, c'est que l'eau de vie devient un acteur à part entière de l'univers de la mixologie. Et ça, c'est pour nous une belle revanche.
Donc, les cocktails.
Les cocktails, voilà.
C'est un peu l'avenir du produit ?
C'est totalement l'avenir. Cette mixologie, en fait, elle permet de comprendre comment une eau de vie peut structurer un cocktail, peut lui permettre d'avoir un goût inimitable. Et ensuite, la deuxième partie, nous, ce que l'on espère, ce que l'on souhaite, c'est qu'éveiller la curiosité des consommateurs pour se dire, mais maintenant qu'on l'a goûté en cocktail, est-ce qu'on peut la goûter pure pour revenir un peu à l'origine, à la source de ce savoir-faire alsacien et français ?
Qu'est-ce que vous pensez que les anciens pourraient penser de ça, justement, des gens il y a 150 ans, il y a 200 ans, qui, avec l'alambic dans les villages, faire bouillir les fruits et de leur dire maintenant on mélange ça avec, je sais pas, de l'agave ou des fruits de la passion ?
Ah, ce serait une grande fierté.
Ouais.
Parce que ce serait une grande fierté parce que la caractéristique des distillateurs, ça a toujours été des gens qui ont cherché à faire des mélanges, qui ont cherché à distiller. En Alsace, on était très célèbre pour les eaux de vie, ce qu'on appelle rares, comme le houx, comme le sorbier, comme le sureau. Donc, et puis les distillateurs, on a toujours un peu cette image, un peu de savant, d'alchimiste. Hein. Donc je pense que ce serait une grande fierté de voir que... même si on a 150 ans, on est encore moderne et on peut innover encore aujourd'hui sur les bases de notre savoir-faire.
Au niveau européen, on sait que l'Australie est dans des négociations avec tout ce qui est ce qu'on appelle les free trade agreements. Donc, pour vous, vous êtes un des acteurs de ces éléments-là. Est-ce que c'est une clé pour vous pour accéder à un marché comme l'Australie ?
Non. Alors, on en bénéficiera. On en bénéficiera.
Même au niveau des appellations ?
Au niveau des appellations, je pense qu'aujourd'hui, on a déjà fait notre éducation et l'univers des professionnels des spiritueux en Australie est extrêmement éduqué, donc ne va pas être évolutionné par ces accords qui sont en train d'être mis en place. Et il y a une telle exigence des professionnels australiens qu'ils se déplacent aujourd'hui très souvent. On les rencontre en France, ils viennent voir nos sites de production, ils viennent vérifier aussi la véracité de ce qu'on avance. Donc, je pense que ça n'amènera pas une vraie révolution parce que l'éducation des professionnels en Australie, grâce à des pionniers comme Gabriel Chesse de Serbaco, par exemple, ces pionniers-là ont apporté cette rigueur et la volonté d'amener une vérité autour des spiritueux. Et ça, je pense que c'est très important.
D'accord. L'intérêt pour vous d'être aujourd'hui en Australie, vous parlez de faire un peu le tour du monde. L'Australie, comparé à d'autres pays que vous avez pu visiter, ça, c'est comment l'intérêt par rapport à voilà, peut-être des produits qui sont peut-être un petit peu nouveaux quand même sur le marché, ou en tout cas revivifier ce marché.
Alors, l'intérêt pour nous de commencer ce parcours un peu de célébration des 150 ans de Massenet, c'est parce que l'Australie a toujours été avant-gardiste au niveau des cocktails et de la mixologie. Et il y a une diversité dans les approches autour du plaisir du partage, parce qu'un cocktail, c'est un partage avant tout. On va célébrer quelque chose. Faut aussi réincarner le cocktail dans sa fonction.
Il y a le côté jovial.
C'est ça. Hein. Alors des fois, on veut trop un peu intellectualiser la chose, mais avant tout, on commande un cocktail parce qu'on veut fêter quelque chose. Et l'angle d'attaque des professionnels en Australie, que ce soit Sydney, Melbourne ou Brisbane, Perth, c'est toujours intéressant parce qu'il y a une volonté d'aller chercher quelque chose de natif, comme on dit, d'origine australienne, et puis de le mixer avec ces savoir-faire qui viennent de France pour ce qui concerne les eaux de vie de fruits. Et pour nous, l'Australie, dans l'univers du cocktail, est un peu un phare comme ça. Et ce n'est pas que Massenet, qui est une petite distillerie, qui le dit. Vous retrouvez toutes les plus grandes marques très fréquemment en Australie qui viennent se ressourcer aussi et qui s'inspirent de ce qui se passe sur ce marché.
Quand on voit les succès en Australie d'autres produits que le vôtre, comme l'Aperol par exemple, ça fait un peu, pas forcément rêver, mais est-ce qu'il y a un modèle qui se développe un peu sur une façon de moderniser une marque qui était peut-être un petit peu ancienne et de la remettre au goût du jour pour intéresser les jeunes et que, en fait, on ait des millions de gens qui prennent des photos avec un verre d'une certaine couleur ou d'une certaine marque et puis avoir l'air cool en fait sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a un modèle ?
Alors, il y a une inspiration, peut-être, plus qu'un modèle, sur le fait que rien n'est jamais perdu. Hein, nous, les distilleries en France, si on veut parler un petit peu de ça, il y a eu une hécatombe terrible. On est passé, on a perdu pratiquement 35% des distilleries en France entre les années 90 et 2000.
La loi ne vous a pas aidé non plus.
La loi ne nous a pas aidé. On a aussi eu un marché qui a été, qui s'est tourné de façon extrêmement violente, rapide, vers des eaux de vie brunes comme le whisky qui a été le premier. Et aujourd'hui, la France est quand même le premier pays consommateur de whisky au monde, faut
d'accord,
le savoir.
D'accord, je ne savais pas.
Ouais. Donc les eaux de vie, on s'est trouvé un peu perdu.
Il y a le whisky breton quand même.
Oui. Et dans cette perte un peu d'identité, on a eu besoin de success stories comme Aperol pour se dire, si des grands groupes croient qu'un produit qui a eu des valeurs, qui a une histoire, qui a des racines peut remonter à la surface, bah nous on va s'accrocher le plus qu'on peut à cette dynamique pour dire, hey, nous aussi on est présent, on a un savoir-faire, on est resté droit dans nos bottes, même si c'était compliqué, et aujourd'hui on vous propose des produits extraordinaires. Donc ça, oui, c'est inspirant.
Est-ce qu'il y a il faut des alliés là-dedans ? Donc est-ce que vous avez des alliés en Australie ? Est-ce que, par exemple, avoir un allié chef, cuisinier dans la restauration, c'est aussi clé, vous pensez ?
Oui. On a besoin d'avoir des ambassadeurs, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire des personnes, soit des barman, des chefs, qui vont partager ce plaisir autour du produit. Et on a beaucoup d'ambassadeurs en Australie. Et ça vient de ce travail, je le répète, on n'est rien tout seul. C'est une chaîne de compétences, c'est une chaîne aussi de partage. Et grâce à Serbaco, qui nous représente en Australie, on a ce lien humain. Parce qu'avant tout, un produit, c'est une histoire d'homme. Bien avant d'être autre chose, c'est une histoire d'homme. Et quand on a cette capacité d'avoir ce lien humain qui va aller toucher le mixologiste, le grand chef, c'est quelque chose, je pense... Si je n'en citerai qu'un, c'est Philippe Mouchel, par exemple, qui est un ambassadeur Massenet extrêmement important, un mixologiste. Ben je pense qu'on a en la personne de Tom, qui vient de gagner le concours du bar Gogo, pas loin de nous. Voilà, mais on partage une expérience humaine.
Et pourtant, il est normand, hein, Philippe.
Voilà, voilà.
Donc, on peut casser les frontières.
Exactement.
Juste pour nous parler, juste vite fait, de la distillerie en elle-même, vous mentionnez 150 ans. Racontez-nous un petit peu l'histoire de cette distillerie, parce que c'est aussi ce qui fait rêver les gens qui... Ici, on a beaucoup de gens qui apprennent le français, qui nous écoutent aussi, qui ont un rêve de la France, une certaine image de cette France. C'est quoi, la 150 ans d'histoire dans une distillerie comme ça ?
Eh ben c'est fabuleux. C'est ce qu'on peut appeler une saga. C'est-à-dire, très rapidement... À une époque, on est en 1860-70, beaucoup de distillateurs, des paysans, des particuliers qui récoltent les fruits des vergers et qui les font fermenter, qui distillent. À ce moment-là, M. Massenet, Jean-Baptiste, de son prénom, décide de faire comme tout le monde, de prendre des fruits, de distiller. Il va pouvoir commercer avec sa famille. On est au fond de la vallée de Villers, près de Célestat, entre Colmar et Strasbourg, une vallée magnifique et une vallée particulière parce que c'est une vallée à fruits. En Alsace, vous avez les vallées à fruits qui sont très peu nombreuses et les vallées à vin qui sont beaucoup plus nombreuses. Donc on est au cœur de cette vallée à fruits. Et là, Jean-Baptiste va commencer à commercialiser ses eaux de vie autour de lui, aux voisins, à la famille, un peu au niveau local, un peu régional. Et rapidement... il va se démarquer. Ensuite, on va avoir dans la saga de l'entreprise Gabriel qui va, Eugène Massenet, qui lui va dire, il nous faudrait quand même une autre vie particulière pour nous démarquer des copains, des confrères. Et lui, il va avoir l'idée de distiller la framboise sauvage. On est en 1913. Jamais personne n'a distillé de framboise. Lui, il se dit, il y a un créneau, c'est une réussite. Et dans les années 1960, il y a un chef qui dit « ça c'est extraordinaire, moi je la veux et j'emmène partout dans le monde ». Ils deviennent amis, c'est Paul Bocuse.
D'accord.
Et là, c'est extraordinaire. Pourquoi ? Parce que Paul Bocuse va emmener Massenet dans sa mallette, dans tous les pays où il va aller. Et c'est ainsi que nous, depuis le fond de notre petite vallée de Villers, on va d'un seul coup commencer à avoir des commandes qui vont tomber de tous les pays du monde. Et quand je dis tous les pays du monde, ça a commencé avec des pays proches, évidemment, européens. Ensuite, on a vu arriver le Japon, on a vu arriver les États-Unis et l'Australie. Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu une success story, mais comme quoi on revient toujours à l'humain, parce qu'il a fallu ces coups de pouce, il a fallu ces hommes qui ont partagé un savoir-faire, une philosophie, un esprit avant d'être des produits. Donc c'est ça l'histoire, très rapidement, c'est cette succession de confiance autour des produits. Et puis aujourd'hui, on a établi des liens avec nos importateurs et c'est des liens quasi familiaux.
150 ans, qu'est-ce qui vous ferait rêver pour les prochains 150 ans ?
De continuer à innover. Continuer à innover, continuer à partager des expériences humaines et puis que des gens se fassent plaisir autour d'un cocktail avec une eau de vie Massenet.
L'objectif, c'est cocktail.
L'objectif, c'est cocktail.
Merci.
Merci.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.